Radioactive.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Atlas de la biodiversité, un rendez-vous mensuel dédié à l'environnement que j'ai le plaisir d'animer aux côtés de Thomas Boucard, chargé de mission à la transition écologique au service développement durable de la communauté de communes du Val d'Amboise. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous accueillons dans notre studio Clément Corollaire. J'espère que je le dis bien, Clément.
Oui, c'est bon.
Donc Clément, vous êtes chargé de mission biodiversité au CPIE Touraine-Val-de-Loire, le centre permanent d'initiative pour l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette association que vous représentez ?
Alors c'est une association dont le cœur de métier est basé sur la sensibilisation et l'éducation des différents publics à l'environnement. Donc on a un bon tiers de l'équipe qui fait de l'animation auprès de différents publics. On a aussi un pôle qui entretient les espaces naturels, donc en fait sur des chantiers de fauches avec export, de tronçonnage, d'écorçage, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Et puis on a aussi un pôle études de l'environnement, donc études de la faune et de la flore, et aussi conseils aux collectivités par exemple.
Très bien, alors petit rappel aux auditeurs qui découvriraient cette émission. L'Atlas de la biodiversité, c'est une démarche qui implique les communes du Val d'Amboise et qui a pour objectif de mieux connaître la faune, la flore et les habitats sur le territoire. Pour cela, des inventaires de nombreuses espèces que l'on trouve sur notre territoire sont menés et des animations nature, bien sûr, mises en place. Thomas nous informe régulièrement à l'antenne sur l'avancée des travaux et le programme de ces animations. La dernière en date étant le festival Manger Sain et Local, si je ne me trompe, qui a eu lieu au lycée agricole d'Amboise. Thomas, il y avait un stand d'info, n'est-ce pas ?
Oui, on était présent avec un stand pour informer les visiteurs.
Voilà, une journée qui s'est bien passée.
Oui, très bien, enfin, malgré la pluie à quelques moments, mais ça a été.
Alors justement, Thomas, est-ce que vous pouvez nous faire un point d'étape des différents inventaires des espèces qui sont en cours sur le territoire ? Où en est-on ? Quelles espèces sont observées ?
Alors moi, je peux vous faire un point sur où en est la démarche, mais pour les espèces observées, c'est plutôt les naturalistes qui nous accompagnent, donc Clément qui va pouvoir parler un petit peu de ce qu'ils ont vu sur le terrain. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on est dans la deuxième phase d'inventaire.
Okay.
Pour rappel, l'Atlas, il est divisé en deux phases. On réalise des inventaires sur sept communes en même temps. Et donc là, on est dans la deuxième phase, les sept communes du côté sud, enfin de Sud-Loire. Qui sont inventoriés depuis le mois de février, avec les chauves-souris, et là, avec le retour du printemps et le beau temps qui revient, tous les groupes en fait, sont inventoriés. Mm-hmm. La flore, les oiseaux, les mammifères, reptiles et amphibiens, etc.
Alors justement, peut-être que Clément peut intervenir maintenant pour nous dire ce qu'il a pu observer, parce qu'il en vient là. Nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais le pauvre a eu une journée bien chargée et quelques petits soucis oculaires.
Ouais, les graminées sont bien là, ça on en observe bien, on s'en passerait volontiers quand on est allergique. Non, alors je reprécise qu'on est membre d'un groupement, donc en fait on est cinq structures qui réalisent des inventaires biodiversité sur le territoire de la communauté de communes. Parce qu'en fait 14 communes en 2 ans, ça représente un travail assez considérable. Mmh. Donc il y a un groupement un petit peu extraordinaire au niveau de l'Indre-et-Loire, toutes ces associations. Et finalement, là, on est nombreux sur le terrain. L'année dernière, c'était presque 20 naturalistes qui parcourent les différentes communes pour essayer d'aller tout comptabiliser. C'est 125 jours d'inventaire à peu près, jour et nuit d'ailleurs. Et là, cette année, c'était une bonne année pour l'observation des reptiles. Par exemple, on a observé pas mal de vipères. Enfin, quand on dit pas mal, on en observe 2 ou 3 d'un coup. Voilà. On n'a pas des observations non plus pléthoriques. On a eu de la cornelle lisse aussi, des choses intéressantes. Et puis d'autres observations un petit peu plus extraordinaires, on va dire, comme de l'aigle beauté, qui est présent certainement nicheur dans le 41, qu'on a pu observer là. Sinon, il y a du castor, qu'on observe de plus en plus sur les différents petits cours d'eau, de la loutre. Pas toujours directement, mais via des pièges photos, où il y a même eu justement des partenaires comme le syndicat de la Masse qui ont envoyé des photos qui fournissent, en fait, on voit des loutres qui sont bien actives. Donc on a plutôt de belles découvertes, aussi des amphibiens, du triton crêté par exemple, une espèce de petit lézard aquatique. Mm-hmm. Donc ça fait des observations pas forcément faciles à réaliser, parce qu'on met différentes techniques en œuvre pour aller les observer. On pose des nasses, par exemple, on pose des plaques, on va dans des coins un petit peu isolés, mais l'idée, c'est d'essayer de faire d'avoir un maillage assez précis des espèces qu'on peut trouver sur le territoire.
Et parmi tous ces spécialistes naturalistes que vous évoquez, Clément, chacun a sa spécialité ou bien vous êtes à même d'observer et de connaître toutes les espèces ?
Alors ça dépend des structures, ça dépend de justement comment ont été un petit peu structurés les différents organismes. La CEPAND par exemple a plusieurs personnes qui sont spécialisées en botanique, d'autres qui sont spécialisées en entomologie, donc l'étude des insectes. Nous au CPE on est un petit peu plutôt généraliste, donc on essaye d'avoir un regard sur tout ce qu'il peut y avoir. On n'est pas des spécialistes, mais on essaye de s'intéresser à tout. Et c'est le cas de pas mal de structures en fait, d'essayer d'être un petit peu polyvalent. Ça permet justement de multiplier les observations sur le terrain plus facilement.
On peut peut-être rappeler les autres structures au-delà du CPIE et de la CEPAND qui ont été citées. Il y a Ligeria Nature, Codalis et puis la LPO Centre-Val de Loire qui nous accompagne.
Très bien. Donc là, c'est aussi en nocturne. Donc là, Clément, il a passé une après-midi à faire de l'inventaire, à observer les espèces et il y retourne ce soir.
Ouais, ce soir, en fait, on a l'avifaune, donc les oiseaux, qui peuvent être donc tout ce qui est chouette, mais aussi des langoulevents. Langoulevent, c'est un petit oiseau plutôt forestier qui aime bien les milieux de landes ou qui ont récemment été coupés. Donc on peut facilement entendre en fait à son chant assez caractéristique. Hein, je vous incite à aller voir sur Internet. On retrouve facilement son chant. Ça peut ressembler à une petite mobilette, on va dire ça comme ça. Les amphibiens qui chantent la nuit. Et puis il y a aussi, c'est pas forcément aussi bien connu, mais les grands scarabées, les grands coléoptères en fait. Notamment le grand capricorne, qui est vraiment un grand scarabée avec des très longues antennes, presque aussi longues que son corps. Et on les observe plus facilement la nuit, qui remontent sur les troncs de chêne par exemple. Et la plupart des hannetons, des choses comme ça, volent aussi à la tombée de la nuit et pendant la nuit. Donc, puis c'est aussi l'occasion d'observer les chauves-souris.
Donc ça veut dire lampe frontale, les bottes, c'est quoi l'équipement quand on travaille la nuit comme ça ?
Ça dépend ce qu'on veut faire. Soit on essaye d'être discret pour ne pas être trop repéré, donc là auquel cas on coupe les lampes et on fait plutôt de l'écoute. Et si on s'intéresse, alors il y a une autre structure, la CEPAND, qui fait ça, qui s'intéresse aux papillons de nuit. Et là, c'est plutôt, on met en place un petit dispositif avec des LED de couleurs différentes, un drap blanc, et puis on cherche à attirer justement ces papillons vers ce dispositif-là. Donc ça dépend ce qu'on veut faire. Parfois, si on veut aussi un peu se rassurer, quand on est perdu au milieu des bois, on peut utiliser la frontale, mais la plupart du temps, on est plus immergé quand on a le minimum de lumière, et puis on est concentré sur ce qu'on cherche.
Alors, ce qui est intéressant, c'était le chant de l'oiseau que vous évoquiez. Moi, je me posais cette question puisque Thomas nous expliquait à plusieurs reprises que les citoyens sont amenés à pouvoir eux-mêmes inventorier, par exemple, les espèces qui sont dans leur jardin. Est-ce qu'il existe des outils afin de reconnaître la faune, la flore locale ? Parce qu'on peut contribuer, mais il ne faudrait pas se tromper.
Oui, il y a pas mal d'outils. Si je suis la meilleure personne pour en parler, mais dont j'ai connaissance, oui, et dont qu'on utilise et qu'on promeut tout au long de la démarche. D'abord, il y a des guides qui existent, des guides nature, pas mal d'ouvrages de référence pour les initiés, et puis plus accessibles pour tout un chacun, pour débuter. Et puis, il y a aujourd'hui des sciences participatives, plusieurs applications et programmes, en général, ça vient du Muséum d'Histoire Naturelle, des programmes nationaux qui incitent les particuliers à observer ce qui se passe dans leur jardin et à trouver de quel oiseau, par exemple, il s'agit. Et ensuite, à le renseigner sur l'application. Mais alors, il y a des clés en fait, de détermination assez simples, en général, qui sont associées à ces outils et qui vont permettre à tout un chacun d'identifier au moins les espèces les plus communes. Et rien que ces informations-là sont très précieuses en fait, pour avoir une bonne idée de la répartition de ces espèces et de leur état de conservation. En fait. Il y a notamment le comptage oiseau des jardins, qui, je crois, soit est passé, soit arrive.
C'était le dernier week-end de mai. Il y a deux comptages nationaux.
Non, mais c'est intéressant quand même de savoir que ça se fait.
Mais qui revient tous les ans. Et il y en a un en hiver également. Donc voilà, c'est des choses où tout le monde peut prendre possession facilement.
Et puis c'est vérifié en fait après, c'est-à-dire que tout un chacun peut saisir ses observations, mais derrière il y a une base de données canalisée. Si on met vraiment des espèces erronées qui ne sont pas possibles d'observer à cette époque-là, il y a quand même quelqu'un derrière qui vérifie et qui valide la donnée. Donc on peut sans souci se lancer, et puis il y a des très bons guides de détermination, et dans le doute, si on sait une erreur, elle sera justement corrigée, donc il n'y a pas de souci. Au contraire, il faut participer, c'est assez important.
À l'échelle locale, il y a les plateformes qui existent aussi. Donc la LPO a développé une plateforme qui s'appelle Faune Touraine. La CEPAND a aussi la sienne OPS 37, je dois en oublier, voilà, c'est aussi des outils, et toutes les données qui sont rentrées dans ces outils-là retournent aussi à l'inventaire national du patrimoine naturel, donc tout est utile et tous les niveaux sont utiles.
Tous les niveaux et toutes les quantités, si j'ai un couple de mésanges, un couple d'hirondelles et de tourterelles, je le signale.
Oui, bien sûr.
D'accord.
Chacun peut le faire. Ça permet de prendre le pouls de la biodiversité ordinaire aussi. Et justement, il y a des études après le site oiseauxdesjardins.fr, je crois. Par exemple, régulièrement, on fait un retour vers ceux qui contribuent avec des petits bilans annuels, par exemple, sur telle ou telle espèce. Et il y a même ces chiffres sont utilisés pour des thèses où justement, ça met en avant la disparition de tel oiseau qu'on trouve de moins en moins, parce que sur le temps long, on arrive justement un petit peu à mesurer la fréquence de telle ou telle espèce.
Et il y a une durée d'observation ? Est-ce qu'on peut se dire j'observe toute l'après-midi, j'observe une heure ?
Alors ça dépend. Pour les oiseaux, par exemple, c'est plutôt conseillé de faire des sessions d'une heure.
D'accord.
Sachant que les deux comptages nationaux, donc dernier week-end de janvier pour les hivernants et dernier week-end de mai pour les reproducteurs, c'est sur un week-end. On préconise une heure, mais en général, les gens font un petit peu moins, plutôt une demi-heure, par exemple. Si on veut observer toute la journée, pourquoi pas, mais dans l'idée, dans l'essayer de fédérer le plus de monde possible, oui. On essaye de prendre un temps quand même assez limité pour pas que ce soit trop contraignant non plus.
Mmh. Et ces outils-là, de toute façon, s'accompagnent en général de petits guides explicatifs, en fait, qui donnent des conseils sur la façon d'observer, la durée d'observation, pas mal d'éléments qui permettent de s'y retrouver.
Oui, c'était pas contraignant. Finalement, c'est assez libre. Chacun peut contribuer à sa manière, à sa hauteur.
C'est l'objectif, en tout cas. Ouais.
Alors, ce samedi 3 juin a lieu la journée biodiversité à la salle polyvalente de Saint-Règle. Je vous propose qu'on en parle. Évidemment, on va vous demander tout ce qui va se passer, tout le programme. Peut-être de marquer une petite pause musicale avant. Je vous proposais d'écouter Midnight Oil avec Beds Are Burning. Alors, pourquoi ? Je vous vois sourire. Je ne le savais pas moi-même, mais en préparant cette émission, donc cette chanson du groupe australien, ce groupe qui s'inquiétait de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, notamment Peter Garrett, le chanteur qui est devenu ministre de l'environnement de 2007 à 2010 en Australie. Vous le saviez ?
Non, pas du tout.
Eh bien voilà, on apprend des choses sur Radioactive dans cet atlas de la biodiversité. On écoute Midnight Oil et on se retrouve tout de suite après.
Give it back.
Vous êtes sur Radioactive, de retour dans l'Atlas de la biodiversité, où je suis aujourd'hui accompagnée de Thomas Boucard, comme pour chaque édition, et aujourd'hui également de Clément Corollaire, chargé de mission biodiversité au Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Donc juste avant cette pause musicale, nous parlions d'une journée à thème qui aura lieu ce samedi 3 juin. Il s'agit de la journée biodiversité. Alors, est-ce que Thomas et Clément, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette journée et quel en sera le programme ?
Je peux déjà peut-être reposer un petit peu le contexte. C'est que dans le cadre de l'Atlas de biodiversité, on a toute une série d'animations qui sont prévues avec les associations qui nous accompagnent. Et donc, il y a notamment un temps fort qui est cette journée biodiversité, qui est une journée d'inventaire participatif où on invite tous les habitants et même au-delà, enfin, toutes les personnes qui le souhaitent, à venir observer sur le terrain, accompagné de naturalistes experts et passionnés, la faune, la flore, apprendre à reconnaître les animaux, les végétaux, et puis ainsi contribuer directement à l'inventaire qui est en cours sur le territoire.
D'accord. Donc, en quoi elle consiste cette journée ? Enfin, en gros, quel va être le programme plus détaillé ?
En gros, qu'on soit, j'allais dire, initié ou simple amateur curieux de nature, on est bienvenu, quel que soit notre âge aussi. On met bien l'accent là-dessus parce que c'est pas du tout une journée qui est là simplement pour les initiés, ceux qui s'y connaissent, qui savent déjà reconnaître les animaux, les végétaux, c'est pour tout le monde. Mmh. Et donc on prévoit tout au long de la journée, il y a plusieurs horaires de départ, à chaque fois de la salle polyvalente de Saint-Règle, donc à 9h, 10h, 11h30, 14h, 15h et 16h30, donc venez quand vous voulez, il y aura forcément un départ pour vous. On formera des petits groupes, en fait, qui seront accompagnés par un ou une naturaliste et qui iront sur le terrain, pas très loin, à pied, depuis la salle de Saint-Règle. Il y a plusieurs prairies, il y a la Masse qui est juste à côté, oui. Il y a pas mal d'endroits chouettes. Mmh. On peut se rendre à pied sans trop de difficultés. Et du coup, la personne experte pourra guider les participants dans la découverte de la nature sur ces sites.
Très bien. Quoi d'autre ? On a hâte de savoir la
Quoi
suite.
D'autre ? Oui, alors pour ceux ou celles et ceux qui ne voudraient pas marcher ou qui seraient moins intéressés par cette partie-là, on a aussi prévu des petites choses sur place, donc toujours à la salle polyvalente de Saint-Règle. On sera derrière la salle, il y a un petit espace vert qui est très sympa, où on aura prévu donc un stand du CPIE, donc Clément pourra peut-être en parler un petit peu. La communauté de communes du Val-d'Amboise sera aussi présente avec un stand pour parler de l'Atlas, des premiers résultats, de tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Et puis, il y aura l'APE de Souvigny-Saint-Règle, du groupement scolaire des deux communes, qui nous fait le plaisir d'être là et de proposer une buvette avec restauration sucrée et salée toute la journée.
Tout ce qu'il faut.
Normalement, il y a tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée.
Cette manifestation, elle s'inscrit plus largement dans le cadre de la fête de la nature, c'est ça ?
Oui, on n'est pas pile dans les dates de la fête de la nature, mais on est manifestation partenaire de la fête de la nature, puisqu'on est un petit peu en dehors. Mais comme la manifestation s'inscrit parfaitement dans le principe de la fête de la nature, on est labellisé manifestation partenaire.
Et je voyais également que c'était la journée internationale du vélo, donc en fait d'une pierre trois coups. Là.
Oui, j'allais oublier ce point-là qui est quand même important. Oui, on a rapidement constaté, enfin ma collègue qui est chargée de mission mobilité a proposé du coup dans ce cadre-là qu'on propose une animation autour du vélo aussi et de découverte de la biodiversité. Donc il y aura un circuit à faire avec elle, qui proposera de le faire avec des petits groupes ou en autonomie, un circuit de 5-6 km, pas très long, à faire en vélo. Alors sur le parcours, il y aura différents points avec des petites affiches et des questions. Et l'idée, c'est de faire ce parcours et à chaque fois essayer de trouver la bonne réponse et au retour à la salle, échanger sur les réponses et puis peut-être obtenir un petit diplôme.
Ah, d'accord.
Voilà. Pour les plus petits, on l'a un peu fait comme ça, c'est plutôt ludique et sympa. Et puis ça permet de passer dans des coins qui sont très chouettes. Si vous n'êtes jamais promené le long de la Masse à Saint-Règle, c'est vraiment un coin très sympa.
Ah oui, tout à fait.
Donc petite boucle, en plus, a priori, le temps est avec nous. Donc,
Parfait. Quoi qu'il en soit, il y a de quoi se mettre à l'ombre aussi sur ces parcours-là. Alors, le CPIE proposera quoi, Clément ?
Alors, moi, il y aura deux de mes collègues qui seront là, donc un ou une collègue qui fera une partie des départs, en fait, régulièrement, pour animer des sorties, donc soit sur les libellules, par exemple, ou sur les papillons, ou sur les oiseaux, ou sur les plantes. Et puis, un ou une autre collègue qui restera au stand pour faire déjà l'explication de ce qu'est l'Atlas de la biodiversité communale.
Oui.
Parce qu'en fait, là, c'est, pour le coup, on va dire vraiment un guichet, on va dire, c'est possible d'échanger sur le sujet à ce moment-là, donc c'est assez pratique. Et puis, c'est aussi présenter les différents programmes de sciences participatives qui peuvent exister, donc qui sont généralement relayés via Viginature, mais là, justement, si on veut s'intéresser aux vers de terre, si on veut s'intéresser aux lucioles, si on veut s'intéresser aux coccinelles, aux escargots, aux oiseaux, aux papillons, il y a presque un programme de sciences participatives par groupe taxonomique. Donc c'est aussi faire simplement la présentation. Et puis pour les plus petits, il y a aussi le jeu de la biodiversité, où c'est on pioche une espèce dans une urne, on essaye de la replacer dans son milieu, donc ça veut dire déjà identifier, savoir qui elle est et où est-ce qu'elle va, et pourquoi elle est là. Donc c'est aussi un petit peu faire attention aux espèces qu'il y a à côté de chez nous, tout simplement. Et on se rend compte qu'en fait, il y a justement plein de gens qui découvrent parfois des orchidées dans le jardin. « Ah bah tiens, mais ça c'est quelque chose que j'avais chez moi, bah, laissez-les pousser, vous verrez que l'année prochaine vous en aurez plus. » Et justement, les gens, c'est déjà, on va dire, une première sensibilisation sur ce qu'ils peuvent trouver chez eux, parce que c'est vraiment sur la biodiversité locale.
Absolument. Lors de la dernière émission avec Camille, on avait évoqué la tortue cistude.
La
cistude, voilà, absolument. Et c'est vrai que d'en reparler autour de moi après l'émission, il y a plein de gens qui ignoraient qu'il y avait une tortue indigène près de chez nous.
Oui, il y a même eu un signalement, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, vers Nazel, je crois, ou Noiset. Enfin voilà, c'est une espèce qui est très discrète. Nous, par chez nous, là, vers Huim, c'est une espèce qui a aussi été signalée. Des gens l'ont trouvée assez étonnée. Et en fait, ça fait partie des espèces qui sont très discrètes, qui ont énormément régressé. Aussi, on les trouve beaucoup moins qu'avant. Et donc, quand les gens les trouvent, bah, forcément, ils associent ça un petit peu à la tortue de Floride, par exemple, alors que non, c'est bien une tortue locale.
Ah oui.
Et au contraire, il faut faire attention, il faut la protéger, parce qu'elle était vraiment bien plus présente que ça avant. Mais on la retrouve maintenant beaucoup moins, parce que les milieux ont énormément évolué. Mmh. Et donc, elle n'a plus forcément les habitats qu'il faut pour vivre. Donc, les gens ne sont plus habitués à les croiser non plus, quoi.
Et puis, d'où l'intérêt des outils que vous évoquiez tout à l'heure, pour pouvoir les reconnaître, les dissocier des autres tortues de Floride.
Alors, il existe d'ailleurs, j'en profite, il y a un groupement, j'espère que je n'ai oublié personne, mais la Société herpétologique de Touraine, la Sépante et Caudalis, qui ont fait un super atlas sur les reptiles et les amphibiens d'Indre-et-Loire. Et justement, on trouve la cistude dessus et des informations. Donc ça fait partie des ouvrages un peu références dont parlait tout à l'heure Thomas, où ce n'est pas des clés de détermination, mais il y a toutes les espèces du département et on peut en apprendre plus sur elles. Donc ça, on a la chance en Indre-et-Loire d'avoir un département assez dynamique pour ça.
Donc cette journée de la biodiversité, pour revenir à Saint-Règle, donc plein d'animations dans la journée, des circuits découvertes, soit à pied, soit en vélo, accompagnés avec des professionnels qui pourront guider et expliquer tout ce qui sera observé. Et puis le soir, c'est pas fini, il y a encore autre chose.
Ah oui, oui, bah, y a le même principe que durant la journée, mais cette fois c'est pour essayer de voir et entendre les espèces dont on parlait tout à l'heure, donc qui se réveillent. Quand nous, on va se coucher ou qu'on ne voit plus rien, et notamment les chauves-souris. Donc ce sera avec Amélie Bayard de la LPO, donc, pareil, qui fait partie des personnes qui sont sur le terrain pour réaliser les inventaires, qui est spécialiste des chauves-souris et qui accompagnera un groupe à leur découverte avec ce qu'on appelle une bat box, donc un petit appareil qui permet de capter les ultrasons et du coup de savoir quelles espèces sont là. Je crois que c'est comme ça que ça marche.
Ouais, ça marche. En gros, chaque chauve-souris a un timbre de voix, on va dire une fréquence, et ils arrivent à identifier un petit peu quelle chauve-souris passe. Et c'est surtout que ça rend audible les chauves-souris et c'est assez... Ouais, c'est assez étonnant quand nous on voit rien et on se rend compte qu'en fait ça vole, c'est très actif, c'est vraiment hyper intéressant à écouter, plus qu'à voir, mais à écouter.
Et puis les papillons de nuit, on en parlait tout à l'heure, les rapaces nocturnes également.
Ouais, bah en fait, en général, quand on fait une sortie comme ça, l'idée c'est de s'appuyer sur tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre. Et généralement, on a souvent une chouette ulotte, par exemple, qui peut être par là, un chevreuil qui va aboyer. Enfin, là, il y a des choses... On n'est pas habitué à sortir en forêt en pleine nuit, par exemple. Et c'est quand même une autre ambiance, mais c'est vraiment... c'est assez immersif et on voit la nature sous un autre angle. Et c'est vraiment très... Ouais, assez... Enfin, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Je trouve ça très sympa.
Bah, vous en parlez avec passion, en tout cas.
Ouais, bah, c'est vrai que c'est... C'est des métiers passion où on aime bien être dehors un peu à tout temps, parce qu'il y a toujours des observations à faire, quel que soit le moment de l'année.
Encore faut-il savoir observer. Voilà. En tout cas, il y a un programme très intéressant. Où est-ce qu'on peut le retrouver, ce programme, Thomas ?
sur le site internet de la communauté de communes du Val-d'Amboise, sur la page Facebook, et puis voilà, en gros, pour les plus accessibles.
Il y a un QR code également hein, sur les flyers, si vous l'avez. Il y a une petite note qui dit « pensez à covoiturer » également, c'est vrai que c'est...
Oui, parce qu'on a un dispositif qui s'appelle Réseau Pouce, enfin maintenant Mobicop sur le territoire, et voilà, on encourage le covoiturage à travers ça. Et pour ceux qui veulent, venez avec vos vélos pour participer au circuit et puis à la balade. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y aurait aussi une balade avec Damien Avril, qui est botaniste à la Sépante, qui sera à vélo, parce qu'il se trouve que Damien fait aussi partie du collectif Cycliste 37 et fait beaucoup de vélo. Et du coup, il accompagnera un groupe à la découverte des paysages et de la flore. Donc ça permettra d'aller un peu plus loin, peut-être que les groupes à pied, et puis d'avoir un autre point de vue sur le paysage à sa règle et peut-être juste à côté.
En tout cas, le cadre choisi, je pense qu'il est, il est plutôt adéquat, puisqu'il y a la forêt juste à côté. Donc, il y a moyen de faire de belles observations dans ce cadre-là.
Oui, ouais, le cadre à Saint-Règle est plutôt préservé au niveau du bourg et autour, et c'est vraiment, vraiment sympa. Oui.
Très bien. Eh bien, chers auditeurs, notez bien ce rendez-vous. C'est samedi 3 juin, c'est juste à côté d'Amboise, dans la commune de Saint-Règle. À partir de 9h le matin, vous pourrez explorer à pied, vous pourrez faire des circuits à vélo l'après-midi, vous pourrez manger, boire et puis vous régaler de tout ce que vous observerez durant cette journée. Merci Clément d'être venu aujourd'hui.
Merci. J'en profite, si vous avez des jumelles, des filets à papillons, n'hésitez pas. Ouais, ça sera d'autant plus participatif.
Très bien. Merci Thomas. On se retrouve bientôt pour un prochain atlas.
Oui, le 22 juin, on parlera des zones humides.
Très bien. Eh bien, prenez rendez-vous. Bonne soirée à l'écoute des programmes de Radioactive.